Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot International sur RFI, bien sûr votre rendez-vous hebdomadaire avec tous nos amis du Café des Sports. Et ils sont là, Rémi Ngono et Xavier Barré. Bonjour messieurs.
Bonjour Annie.
Salut à tous.
Bonjour.
Je suis content de le revoir parce qu'il s'était défilé la semaine dernière. Il n'avait pas parlé de Neymar.
Mais attends,
je crois que c'est vous qui vous êtes défilé. Il y a aussi Marc Libra dans ce duo. Vous allez essayer d'intervenir, ouais. Marc.
Bonjour Annie, bonjour à tous, je suis de retour.
Bonjour Marc. Il y a aussi El Jefe, Alejandro Valente, il fait des infidélités à ses vacances pour venir nous voir. Il passe dans le studio, incroyable,
c'est
un peu bronzé.
Une journée un peu spéciale quand même. Hein.
Bonjour Alejandro, eh bien oui, parce qu'il y a une personne de plus aujourd'hui dans ce Café des Sports, et une personne qui va devant vous, ou plutôt dans vos oreilles, participer à sa dernière émission, c'est sa dernière journée de travail en tout cas. Au bout de 34 ans, c'est ça, Philippe Zégraf ?
RFI, oui.
34 ans, RFI. Philippe Zégraf est là. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bon ben voilà, ce jour est arrivé. Hein, donc on est tous là avec David Finzel et Pierre Guérin et puis aussi Guillaume Muni à la réalisation pour ce Café des Sports. Alors un Café des Sports où nous parlerons de ce PSG insatiable. Alors que sa vedette Neymar se lancera enfin dans le championnat de France, ça sera dimanche dans un coin de Bretagne. Eh bien les dirigeants songent un autre gros coup, acheter Kylian Mbappé, le jeune prodige né à Bondy mais révélé par Monaco en fin de saison dernière. Alors une nouvelle folie peut-être pour le PSG, c'est ce qu'on va se demander, alors que les grands clubs européens commencent à regarder le nouveau venu un peu de travers. La candidature du Maroc pour organiser une Coupe du Monde. La Fédération Royale a ce matin confirmé son intérêt pour recevoir la compétition à 48 sur son sol et pour 2026. Alors sans doute une manière de prendre date pour ce pays africain, nous en parlerons. Et puis nous parlerons aussi de la pression qui est déjà sur les épaules des Blues. Les joueurs d'Antonio Conte, les champions 2017, vont-ils conserver leur titre jusqu'en 2018? Alors que depuis 2009 en Angleterre, jamais aucune équipe de Première Ligue n'a pu conserver son titre. Un grand salut aussi, avant d'ouvrir les débats, à nos auditeurs de Kinshasa, ces auditeurs quinois qui se désespéraient de ne plus nous suivre depuis 9 mois. 9 mois d'absence, durant lesquels le Real a encore gagné une Coupe d'Europe et Neymar surtout a abandonné le Barça. Mais cela, les autres auditeurs le savent. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts. C'est donc dans un petit coin de Bretagne que le Brésilien du Paris Saint-Germain fera ses premiers pas en Ligue 1. De quoi souffler un vent de folie sur la ville de Guingamp. 7000 habitants dimanche soir. La chance pour les 18000 spectateurs autour de la pelouse de Roudourou. Alors Philippe Zégraf, vous qui avez quelques liens avec la Bretagne, Roudourou, cela...
Alors le stade de Roudourou, on dit, de Gerland, parce que c'est un quartier Gerland et Roudourou est un quartier de cette petite ville de Bretagne. Donc c'est pas du roudourou, on va dire de roudourou.
Et qu'est-ce que le roudourou ?
Le roudourou ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas.
Nous, on a cherché. Ah. Alors ça veut dire le gué, en fait. Ah. Parce que la ville de Guingamp s'est installée, il y avait pas mal de cours d'eau, mais on pouvait passer à gué, c'est-à-dire sans pont. Et voilà, l'ambiance unique du stade du gué, où on guette pas, mais où on passe à gué. En tout cas, fin du feuilleton du fameux CIT, ce certificat que le Barça ne voulait pas vraiment libérer. En tout cas, ils ont reçu les 222 millions d'euros sonnant et trébuchant. Mais ce chapitre est à peine refermé, on est sous l'effet peut-être d'un autre coup qui se prépare. Recruter Kylian Mbappé, le jeune prodige de Monaco, l'attaquant, l'ailier, le buteur qui, durant les 4 derniers mois de championnat, a affolé les grands clubs. Xavier Barré, est-ce qu'il faut y croire ?
Oui, on voit bien qu'avec ce PSG version Qatar, tout est possible. 222 millions pour Neymar, malgré le talent du Brésilien, il y a encore quelques semaines, on n'y croyait pas, donc c'est chose faite. Mbappé, les circonstances sont un peu différentes. Lui, il avait vraiment l'intention de rester à Monaco, une saison de plus, une saison pleine, une saison avec la pression, parce qu'il faut rappeler qu'il y a un an, on n'en parlait pas de Mbappé.
Il a commencé en janvier, on va dire.
Voilà, il a fait qu'une demi-saison avec Monaco, une demi-saison flamboyante, une demi-saison brillante, qu'il a menée déjà en équipe de France. Et lui avait l'intention de rester à Monaco, mais les départs successifs, alors il y en avait qui étaient actés comme Bernardo Silva, Tiemoue Bakayoko, mais celui surtout de Benjamin Mendy, avec qui s'entendait très bien, qui était un peu son grand frère, et puis peut-être d'autres qui se profilent derrière, font qu'ils doutent de la l'authenticité, de la réalité du discours des dirigeants monégasques. Qui ont dit non, non, on n'a pas besoin de vendre, c'était ça le discours, on est là pour construire une équipe compétitive. Et puis il y en a un qui s'en va, deux, trois, quatre. Donc maintenant il est un peu dans le doute et il a le sentiment que les dirigeants monégasques ont un peu joué la montre à ses dépens et du coup les possibilités qu'il avait de partir ailleurs, certaines se sont refermées. Et aujourd'hui il n'y a plus tant que ça de possibilités. Au Real Madrid où il rêve d'aller, eh bien Gareth Bale est toujours là, donc il n'a pas vraiment de possibilité d'y aller. Manchester City, ça reste un choix intéressant, mais c'est pas son premier choix. Et donc, finalement, le meilleur moyen de continuer à progresser, ce serait de venir dans ce PSG hyper ambitieux.
Rémi, est-ce que Kylian Mbappé continuerait à progresser du côté du Paris Saint-Germain? Il serait pas titulaire.
De toutes les façons, je ne sais pas si on progresse au Paris Saint-Germain. Lorsqu'on a recruté quand même Thiago Silva, on nous a dit que c'était le meilleur défenseur du monde. De là, il est devenu le piètre défenseur du monde. Quand on a recruté, bien évidemment, aussi quelqu'un comme David Luiz, on nous a dit que c'est le magnifique. Finalement, on a vu que
lui, il n'est pas un défenseur. Il y a peut-être plus de chances de progresser.
Mais sauf qu'il est actuellement défenseur à Chelsea. Subitement, il a reprogressé. Quand on nous a recruté, même Cavani,
n'a pas beaucoup de fait sous-titres chez Mustapha Daleb.
Donc je ne sais pas, honnêtement, le nouveau Qatar, si on y progresse, parce que honnêtement, même Krikoviak, qu'on croyait qu'il allait progresser, il a chuté, même Ben Arfa n'a pas progressé. Donc à une certaine période, je me dis, Mbappé aussi, peut-être ne va pas progresser parce que je n'ai pas vu véritablement quelqu'un progresser dans cette équipe.
Marc, si ça se faisait, est-ce que c'est un bon choix alors que tout le monde, on pense à Carlos Bianchi, un ancien entraîneur qui en a vu des bons joueurs, qui conseillait de rester, de peaufiner un peu justement sa progression dans le club où il est déjà, à Monaco, le club qu'il a formé. Est-ce que c'est une bonne idée déjà de rentrer un peu dans la piste aux étoiles là?
Je ne crois pas que ça soit vraiment très intéressant pour lui de venir actuellement au PSG. Je crois qu'il y a, dans la presse espagnole, il y a quelques jours, ou hier ou avant-hier, Mbappé réclamait quand même avoir le même salaire que Falcao. Donc peut-être qu'il peut se servir un petit peu de ce genre de, pas de monnaie d'échange, mais de dire que voilà, le PSG me veut à tout prix, mais moi, si j'ai 18 millions comme Falcao, je reste. Qu'est-ce qu'il va venir faire à Paris? Aujourd'hui, il y a une star, c'est Neymar. Aujourd'hui, la star de Monaco, on le sait, c'est Mbappé. Et pour la suite, on sait qu'il va exploser. Donc pourquoi ne prendra-t-il les risques de venir au PSG aujourd'hui? C'est ça, je comprends pas. Parce que pour moi, il a le talent pour jouer au PSG.
Vous, en tant que joueur, justement, vous changeriez de club?
Mais moi, si je suis, je reste à Monaco.
Pour aller jouer avec Neymar?
Oui, mais c'est pas le but ultime de jouer avec Neymar. Je pense que de jouer au Real Madrid ou au Barça. Et si on me dit, t'as le choix entre le Barça, Madrid et PSG, excusez-moi, je vais d'abord au Real ou d'abord au Barça, puis après.
Oui, mais là, apparemment, il n'y en a plus qu'un sur les rangs, hein, parce que il y a une inflation aussi.
Non, mais je suis d'accord, mais aujourd'hui, à sa progression, on est à un an de la Coupe du Monde, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que Mbappé, rappelez-vous, Mbappé a démarré en octobre parce qu'il a eu son petit choc traumacrânien lors de la première ou deuxième journée face à Gand, donc du partir du mois d'octobre, il a commencé à être bon, à marquer des buts, et c'est vrai que sur les 6 derniers mois, il a explosé. Il y a l'équipe de France, il y a tout ça. S'il va au PSG, mais il va bouder. C'est normal, c'est un compétiteur. Il va bouder, il est pas content. En janvier, on le mettait un peu sur le banc parce que c'était un match de coupe pour le faire souffler. Il est pas content, c'est un gamin qui a besoin de jouer et progresser. Oui, il progressera, mais avec un coach, un grand coach. Emery peut être ce coach-là. Donc, il a encore à progresser. À 18 ans, on progresse toujours. Mais est-ce qu'il va progresser en étant au PSG avec l'ambiance qu'il peut? Parce que l'ambiance du PSG est très particulière. Vous savez, les Brésiliens, Neymar est arrivé, il a mis des clauses. Mais les Brésiliens, faut pas les toucher, faut pas ceci, faut pas cela. D'accord, Neymar il arrive, si Mbappé arrive là-bas, moi je pense qu'il vaut mieux qu'il reste à Monaco, qu'il fasse ses armes, qu'on lui donne ce qu'il veut. Monaco va gagner de l'argent avec lui, ils vont en gagner, si c'est pas maintenant, c'est dans 6 mois, dans un an.
Alejandro, alors une chose aussi qu'on se demande, c'est les voies d'argent du PSG sont-elles infinies? On a l'impression surtout que ce Paris Saint-Germain, le fair play financier ne l'empêche pas de faire ce qu'il veut.
Mais disons que le fair play financier a été fortement allégé par rapport à ce qu'il était il y a quelques années lorsque Michel Platini présidait aux destinées de l'UEFA. Donc aujourd'hui, on croit comprendre quand même que le PSG n'aurait pas trop de mal à rentrer dans le clou pour peu qu'il réussisse à vendre certains de ses joueurs.
Parce qu'il faut équilibrer les comptes, c'est ça.
Il faut montrer qu'en tout cas, on peut limiter les déficits dans les années à venir tout en étalant les investissements sur plusieurs années, ce qui permet quand même à un club comme le PSG qui a des bons conseillers financiers de trouver des solutions. Cela dit, Mbappé, on a l'impression qu'il a les choix d'aller n'importe où, et au montant qu'on évoque, c'est pas vraiment le cas. On dit par exemple, il veut pas aller au Real Madrid parce que Bale n'est pas parti. Il n'y a pas que ça. Le Real Madrid a beaucoup réfléchi à la question. Vous savez, en Espagne, Monaco est considéré comme un paradis fiscal. Et les règles particulières qu'il y a en Espagne font que Mbappé coûterait 40 millions de plus que s'il allait à Monaco pour le même prix, au PSG pour le même prix. Donc Florentino Pérez n'est pas du tout emballé à l'idée d'investir de telles sommes d'argent sur un joueur qui, en plus, poserait des problèmes d'équilibre salarial au sein de l'équipe. Donc si tout de suite il arrive avec un salaire très élevé, il sait qu'il aura la queue le lendemain des autres joueurs qui seront moins payés et qui voudront être au même niveau que lui. Et à Barcelone, on se pose le même problème. Et c'est pour ça que Barcelone n'a pas vraiment renchéri sur les transferts d'Mbappé.
Donc, de toute façon, en plus, Mbappé, il rêve d'aller au Real. Donc, il n'a jamais dit qu'il rêvait d'aller au Barça.
Ouais, il y a quand même un risque, on comprend ce qu'explique Alejandro Valente, c'est qu'il y a quand même un risque sur un joueur de 18 ans, qui a moins sur un joueur confirmé de 24 ou 25 ans, comme pour Neymar. Regardez, il y a deux ans, Monaco a vendu Anthony Martial à Manchester United, 80 millions d'euros, enfin 50 millions d'euros plus 30 de bonus en fonction de différentes clauses. Donc 80, est-ce qu'il a eu le retour sur investissement en cours des deux années qui viennent de s'écouler? Pas vraiment. Donc ça peut prêter à réflexion.
En tout cas, ce fair play financier qui avait été institué, c'était quand même pour que finalement il y ait une certaine cohésion et que ce mercato ne barque pas dans tous les sens. Or, c'est pas l'impression qu'on a. Et il y a beaucoup de clubs qui commencent à se poser des questions. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas était hier avec d'autres responsables de grands clubs, et Nasser El Khelaifi du PSG y était aussi, à la réunion de l'ECA, hein, de cette association des clubs européens, et ils ont évoqué ce thème parce que Jean-Michel Aulas, lui qui est propriétaire de l'Olympique Lyonnais, il redoute une inflation incontrôlée.
Vous avez la chance d'avoir du pétrole et du gaz sous les pieds et vous pouvez vous payer tout ce que vous voulez, ou vous ne les avez pas, et dans ce cas-là vous êtes obligé de combattre pied à pied pour essayer d'avoir les deux places européennes qui rapportent de l'argent. On annonçait le PSG à 550, je pense que vous pouvez en rajouter 150 ou 200 de plus, donc ça fait quand même le plus gros budget mondial des clubs européens, sans avoir les ressources.
Xavier, ça veut dire que c'est les autres clubs européens commencent à être un peu jaloux de ce PSG qui a du pétrole et du gaz sous les pieds?
Oui, enfin il y a Manchester City qui est à peu près dans la même situation, à part que c'est l'Émirat d'Abu Dhabi, c'est pas le Qatar, mais bon, c'est la même fortune.
Même origine,
après, l'amertume de Jean-Michel Aulas, elle était moins évidente il y a 10 ans quand c'est lui qui avait le club le plus riche de France, grâce à des partenariats intelligents noués avec notamment la firme Pathé, mais aussi d'autres annonceurs. Aujourd'hui, il s'est fait doubler par le Qatar, effectivement, et par le PSG qui a des ressources insoupçonnées. Bien sûr, c'est de bonne guerre de le signaler, de le mettre en avant. Maintenant le PSG, ils font, avec les moyens qu'ils ont, conséquents, ils construisent un club pour être compétitif au niveau international, au niveau de la Ligue des Champions. Donc effectivement, ils sont sur la même ligne désormais que le Real, que le Barcelone, que le Bayern, que la Juve. Et quand on dit qu'avec 700 millions d'euros, ils auraient le budget le plus gros d'Europe, Barcelone a rendu ses comptes il y a quelques semaines et ils ont un budget pour la saison écoulée de 708 millions d'euros, je crois. Donc ils sont dans à peu près au même niveau.
Ils se sont mis au même niveau. Marc,
moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'ils sont en train de faire n'importe quoi. C'est-à-dire 222 millions, je suis ravi que Neymar soit là, mais c'est un petit peu n'importe quoi. Donc Mbappé, c'est quoi, 180, 190, et après on voit des joueurs qui partent, qui sont pour moi des joueurs, des bons joueurs, mais ça reste lambda, 100 millions. Là, on nous annonce des joueurs, Dembélé à plus de 100 millions, Coutinho 150 millions. Mais là, c'est là où
vous
y a
savez
une dérive qui part dans tous les sens. Et ça va s'arrêter quand? Ça ne s'arrêtera pas. Ou alors, ils ne pourront plus faire face, c'est tout. C'est là où je comprends là ce qu'il dit. Mais ok, ils ont de l'argent, d'accord. Mais 220 millions,
oui, mais où va aller le football? Mais il y a un peu d'hypocrisie dans tout ça, parce que si les joueurs...
Le premier hypocrite, c'est quand Neymar, il m'annonce, oh, je viens pour le profil, oh, moi, je Paris, mais quel... Mais il est fou, non, ce garçon, bien, de dire
sûr,
ça. Non, mais il vient que pour l'argent. Mais qu'ils le disent, hein, parce qu'ils ne prennent pas pour des imbéciles. Qu'ils ne disent pas, oh, le projet Paris, qu'est-ce que ça m'intéresse.
Bien sûr, mais c'est comme lorsque les grands joueurs partent en Chine en parlant de l'intérêt sportif, d'accord. Mais d'un autre côté, il faut dire que si ces grands clubs qui sont une sorte d'élite aristocratique qui est très bien dans son entre-soi et qui ne veulent pas voir de nouveaux riches débarquer et perturber leur jeu,
mais
il faudrait à ce moment-là qu'ils s'engagent dans des limitations des montants des transferts, dans des limitations des salaires, c'est qu'ils n'ont pas intérêt à faire.
Et l'illustration de ça, c'est qu'aujourd'hui Isco vient de signer un nouveau contrat avec le Real Madrid. La clause est de 700 millions d'euros. Donc c'est vrai que maintenant on a des prix hallucinants. Rémi, vous vouliez ajouter quelque chose?
Même la clause de Benzema à 1 milliard, comme celle de Ronaldo, hein. Donc quand même, oui, c'est comme ça. Donc je devrais quand même dire que c'est nous qui voulons jouer les hypocrites. Parce que le football, nous le savons, ça rapporte gros aujourd'hui. Et quand on regarde le mercato de l'année dernière, c'est-à-dire que 2016-2017, les clubs européens dépensent 3 milliards 700 millions d'euros. Mais sur les 3 milliards 700 millions d'euros, 42% sont dépensés par les clubs anglais. Et curieusement, quand un club français comme le PSG veut dépenser, on voit comment est-ce que tout le monde s'élève. Tous les clubs français, y compris le PSG, ont dépensé l'année dernière 248 millions d'euros seulement. C'est-à-dire que les clubs de la Ligue 2 anglaise ont dépensé plus 102 millions de plus que les clubs de la première division en France. Donc, à une certaine période, ceux qui veulent aujourd'hui faire de la morale au PSG, veulent parler du fair play, qu'ils arrêtent de le dire. Il y a un proverbe africain qui dit « Le vautour ne se désigne pas juge au procès du canard. »
En tout cas, une chose peut-être, Marc, est-ce que le PSG, s'il recrute vraiment Neymar et Kylian Mbappé, ils sont en train de réaliser le mercato parfait? Parce que l'année dernière, on les avait beaucoup critiqués dans l'autre sens.
Le mercato parfait, je vais être un peu dur parce que moi j'attends de voir un gardien puisqu'on ne sait toujours pas qui va démarrer la saison entre les deux gardiens. Donc j'ai vu Areola, donc Trapela, ça paraît un petit peu dans tous les sens. J'attends de voir un grand défenseur, un milieu de terrain. Après, devant, ouais, ça tient la route. Mais une équipe se construit pas comme ça. On a vu ce que ça a coûté à Manchester City pour gagner un titre. Ça a mis quoi? 10, 11 ans pour gagner un titre. Et une Ligue des Champions, elle est où?
Toujours
pas là. Et ils ont dépensé quoi? Des milliards et des milliards. Donc c'est bien beau d'assembler. Il y a un projet économique sur Neymar qui est très intéressant. Je passe souvent sur l'échange. Je vois qu'il y a encore une queue de 200 mètres. Mais j'ai failli écraser un mec tout à l'heure. Non, mais tout va bien.
Pour acheter le maillot.
Pour acheter le maillot, bien sûr.
C'est pas la Ligue des Champions qui rapporte de l'argent. C'est-à-dire, ça, il faut déjà dire qu'est-ce que ça rapporte. Non. Les gens, quand ils font ça, c'est parce qu'ils veulent peut-être une certaine aura et tout. C'est comme le ballon d'or, ça ne rapporte pas de l'argent.
Bien sûr.
Donc, s'il fallait parler en termes de rentabilité, c'est pas ça. La preuve, c'est que les clubs anglais, d'ailleurs, ne rapportent pas.
Non, mais là,
on
parlait sur le plan sportif, Rémi, sur le mercato parfait.
Mercato parfait, c'est que, par exemple, Manchester City n'a pas encore remporté une Ligue des Champions. Le PSG, par contre, n'avait pas atteint les quarts de Ligue des Champions depuis 18 ans avant l'arrivée des Qataris. Donc, subitement, quand ils atteignent, on se dit quand même que les objectifs sont là. Le PSG ne va pas se reformer et se reconstruire exactement comme d'autres veulent faire des temples en 3 jours. Le PSG, c'est pas Jésus-Christ.
Mais
c'est
non, mais Rémi, on se demande si c'est une bonne chose de recruter Mbappé à côté de Neymar. C'est ça la question.
Ah non. Pas une bonne chose parce que
vous avez passé votre tour.
On a bien vu quand même que Barcelone, avec une attaque de feu, une défense qui n'était pas toujours imperméable, a gagné la Ligue des Champions plusieurs fois. Parce qu'effectivement, quand vous avez le ballon, quand vous avez la possession et que vous avez des joueurs qui marquent des buts à chaque attaque, forcément, vous avez quand même plus de possibilités de gagner que quand vous avez que des défenseurs, comme on l'a vu avec la Juventus ces dernières saisons.
Alejandro?
Pour moi, c'est l'opération de com parfaite. C'est le recrutement parfait, on le saura à la fin de la saison prochaine.
S'ils gagnent ou non la Ligue des Champions.
Et on verra
s'ils sont champions de France aussi.
Oui, si cet investissement est vraiment à la hauteur des espoirs qu'on place aujourd'hui dans cette équipe du PSG qui suscite quand même pas mal d'interrogations, comme le disait Marc.
Et on continuera à se poser des questions. À noter, dans le championnat de Ligue 1, alors qu'il y aura ce PSG à Guingamp pour la soirée de dimanche soir, et puis il y aura aussi un très intéressant Nantes-Marseille du côté justement de la Beaujoire, avec un affrontement, une confrontation qui peut être très intéressante. On se retrouve juste après les infos pour continuer à parler football.
Mmh. Radio Foot International, Annie Gasnier.
Deuxième partie de notre Café des Sports sur RFI et dans Radio Foot International avec Rémi Ngono, Xavier Barré, Marc Libra, avec Alejandro Valente, El Jefe, et puis avec Philippe Zigraf. Et justement, Philippe Zigraf, nous allons profiter encore de tout ce que vous savez sur le football africain et nous avez appris pendant tant d'années, puisque le Maroc se montre ambitieux avec aujourd'hui la nouvelle que la Fédération marocaine posait la candidature du Royaume chérifien pour organiser une Coupe du Monde, et ce serait celle de 2026. C'est celle qui doit accueillir 48 équipes pour la première fois, hein, selon la formulation nouvelle voulue par le président Gianni Infantino de la FIFA. Alors le Maroc a déjà été candidat, Philippe, hein, il a déjà été candidat par quatre fois. Pour la Coupe du Monde en 94, qui avait eu lieu finalement aux États-Unis, celle de 98 en France, celle de 2006 qui avait eu lieu en Allemagne, et enfin celle de 2010, là, c'était contre l'Afrique du Sud, puisque c'était la foi du continent africain, et l'Afrique du Sud, surtout Nelson Mandela, vraisemblablement, avait joué un grand rôle et l'avait emporté. En tout cas, le pays s'est modernisé, il compte 6 stades aux normes internationales, 4 sont encore en projet, et le président de la Confédération africaine, Hamad, vous l'avez joint tout à l'heure au téléphone, et avec Farid Achache, et il vous a dit que tout le continent africain est derrière le Maroc.
Ce n'est qu'une manifestation de candidature, tout d'abord. Tout ça va être discuté au sein même du pays et avec la Confédération pour qu'on puisse voir de près quelle est la stratégie idéale. C'est le pays qui va choisir qui vont aller avec eux ou le pays seul va le faire. Mais ce qui est important, c'est qu'un pays africain s'engage pour cette candidature. Au sein de la Confédération, j'ai sollicité la majorité des présidents des zones. La majorité m'ont déjà signifié leur solidarité, leur engagement pour soutenir cette candidature. Ce qui est important, c'est que l'Afrique, pour la deuxième fois, souhaite organiser la Coupe du Monde. Ce sera la Coupe du Monde de toute l'Afrique.
La Coupe du Monde de toute l'Afrique, le Maroc est candidat seul, oui. Philippe, finalement, pour l'instant.
Bah, pour l'instant, c'est ce que nous a confirmé le président Hamad, candidature seule pour l'Afrique et seule candidature africaine, puisque la FIFA avait fixé au 11 août à minuit, alors il y a peut-être un candidat, le Lesotho, le Swaziland, qui va se manifester d'ici minuit, je ne le pense pas. Donc, candidature seule, toute l'Afrique, toutes les zones, la Confédération africaine sont derrière la candidature marocaine, mais il n'empêche que le Maroc avait, il y a quelques mois, déjà évoqué la possibilité d'une co-organisation avec l'Espagne, d'abord avec la Côte d'Ivoire. On avait parlé de la Côte d'Ivoire, la FIFA avait dit très vite non, la Côte d'Ivoire, le Maroc, c'est trop éloigné, on ne pourra pas la faire. Ensuite, le Maroc a parlé, surtout la presse marocaine, il faut bien le dire, pas les dirigeants, avait parlé d'une organisation, d'une co-organisation avec l'Espagne, qui a dit pourquoi pas, et avec le Portugal. Mais le Portugal a très vite dit non, sans doute on ne se lancera pas dans cette aventure, ça n'est pas encore entièrement sûr, mais bon, il pourrait y avoir une candidature avec l'Espagne. Alors ce que nous disait hors micro aussi le président Hamad, c'est que de toute façon cette candidature, elle sera africaine, puisque l'Europe ne peut pas candidater, l'Asie ne peut pas candidater.
Ça passerait par la voie marocaine.
Voilà, ce serait la candidature africaine qui serait retenue, après libre au Maroc de demander à l'Espagne. Alors l'idéal, évidemment, ce serait une candidature maghrébine, Algérie, Maroc, Tunisie, ce serait formidable, avec les infrastructures dans ces trois pays. On connaît les relations très froides politiquement entre le Maroc et l'Algérie. Aujourd'hui, c'est pas possible. Dans 2 ans, 3 ans, est-ce que ça le sera? Ça fait très longtemps que les relations sont rompues. Bon, ce sera très difficile de faire une candidature Maroc-Tunisie. Donc, le Maroc s'est dit, l'Espagne, c'est à côté. Donc, pourquoi pas une candidature commune? Mais pour l'instant, on ne le sait pas. C'est aux Marocains de le décider avec la CAF, puisqu'il y aura une commission à la CAF qui va être mise en place pour discuter avec le Maroc et pour l'aider, pour l'accompagner dans cette candidature. Maintenant, il faut attendre. Il faudra attendre un an au moins pour le savoir.
Alors, la chose peut-être, Alejandro, c'est que quand la décision a été prise par la FIFA de ces 48 équipes, on sait que Gianni Infantino avait déjà une idée en tête, c'était les États-Unis qui seraient candidats, qui sont candidats, hein, qui déjà sont déclarés, candidats. Avec le Canada et le Mexique.
Absolument, c'est et jusqu'à ces dernières heures, on pensait que ce serait la seule candidature et qu'elle passerait comme une lettre à la poste. Finalement, le Maroc vient troubler un petit peu le jeu imaginé par la FIFA. Cela dit, ça a peut-être des avantages pour Gianni Infantino que le Maroc soit candidat. D'un côté, ça lui permet d'écajoler l'Afrique, qui est un continent auquel il montre beaucoup d'attachement. D'ailleurs, son épouse est marocaine et c'est pas négligeable non plus. Et puis, ça
surtout
permet...
qu'il a soutenu Hamad contre Ayatou pour l'élection à la CAF.
Absolument. Et puis, ça lui permet également de mettre un peu la pression sur les candidats nord-américains qui jusqu'à présent avaient tendance à pas trop dévoiler les détails de leur projet. Ça va les obliger quand même à s'activer. Ils ne courent pas tout seuls dans cette course et donc ça mène un peu de compétition et ça va rendre peut-être plus intéressant le processus d'attribution de cette Coupe du Monde.
Philippe, on a juste posé la question au micro au président Hamad en lui demandant si d'aventure le Maroc n'était pas choisi pour 2026. Est-ce que ce n'est pas une façon de se positionner déjà pour 2030? Il nous a dit bah non, 2030, on ne sait pas qui peut être candidat. Non, 2026.
Oui. Xavier?
Mais moi, je me souviens en plus avoir suivi les attributions des Coupes du Monde pour France Football 2006, 2010 et même déjà en 98. Et le Maroc avait un très bon dossier de candidature, même s'il y avait beaucoup de stades à construire.
Il y avait que 16 équipes aussi à l'époque.
Il y avait moins d'équipes, il y avait encore beaucoup de stades à construire. La force du Maroc, c'est sa proximité de l'Europe, qui reste quand même le berceau du football mondial. Or là, vous allez avoir une Coupe du Monde en Russie qui est en Europe, mais qui est quand même un peu excentrée. Vous en aurez une en Qatar, qui reste quand même un peu mystérieuse. Et si vous venez au Maroc, si vous venez au Maroc, vous êtes vraiment aux portes de l'Europe. Et là, vous aurez un grand succès populaire garanti.
Donc, c'est une belle candidature à laquelle on peut s'intéresser pour les prochains mois, en tout cas. Et on verra justement s'il y a cette alliance. Je me souviens qu'Alejandro, vous en aviez déjà parlé de ce projet. Rémi?
Je crois que l'Afrique a attendu 80 ans avant d'avoir une Coupe du Monde. Or, quoi qu'on dise, lorsque l'Afrique du Sud a eu cette candidature, on a dit l'Afrique du Sud ne peut pas le faire. Et on a vu que l'Afrique du Sud est allée au-delà de 4 milliards. Ils ont même encore ajouté 13 milliards pour mettre les infrastructures pour un pays qui n'était pas à vocation footballistique. Et voilà que le Qatar, un bout de terrain de 11 000 km², qui vaut un département du Maroc, qui a 1,5 million d'habitants.
Oui, mais il y a beaucoup d'argent dans le sous-sol, Rémi.
Non. Le Maroc est très riche. Le Maroc, c'est 35 millions d'habitants. Et au-delà de ça, au moment où on attribuait la Coupe du Monde au Qatar, il n'y avait qu'un seul stade et une seule équipe. Aujourd'hui, comme on attribue au Maroc, il y a déjà des infrastructures qui sont bel et bien construites. Donc, à une certaine période, il faut qu'on arrête même de dire co-organisation. Le Maroc est capable d'organiser la Coupe du Monde au regard de sa superficie, au regard de ses infrastructures actuelles, au regard de son plan économique, soit dit en passant, depuis 2014. Le Maroc a les investissements étrangers de 3 milliards de dollars par an. Donc, à partir de là, pourquoi un tel pays n'organiserait pas?
Et le Maroc a d'ailleurs accueilli, on y était pour Radio Foot ces deux fois-là d'ailleurs, la Coupe du Monde des clubs en 2013 et en 2014. Bon, après, il n'y a pas eu la CAN et on sait tous pourquoi. Donc, on surveillera cette candidature du Maroc. Philippe Zigraf?
Non, mais c'est pour répondre à Rémi, c'est pas nous qui disons il faut une double candidature. C'est le Maroc qui a émis cette idée-là, c'est la presse, ce sont les dirigeants de clubs, les gens parlent et disent pourquoi pas, mais pour l'instant, non. Le Maroc a candidaté seul, et la fédération l'a bien précisé. Et c'est vrai que je corrobore ce que dit Rémi, il y a des infrastructures, il y a peut-être des travaux à faire, c'est normal pour une Coupe du Monde à 48 équipes, c'est dans 9 ans, mais le Maroc, avec les infrastructures hôtelières, touristiques, c'est un pays assez petit, le Maroc pourrait effectivement organiser une Coupe du Monde à 48, parce qu'il faut dire qu'il n'y aura pas 48 équipes qui joueront en même temps beaucoup de matchs sur le pays. Il y a un tour préliminaire, il y a des équipes qui partiront après
très
le premier
vite.
Tour.
Donc, voilà. Ça passera très vite de 48 à 24.
Vous dites c'est dans 9 ans, mais en fait, les délais sont très courts, car la FIFA va prendre sa décision en juin prochain. Et il faut que les dossiers techniques complet soit prêt début mars au plus tard. Donc ça laisse vraiment quelques mois seulement au Maroc pour monter un tel dossier. Vous savez que c'est très compliqué, en plus avec 48 équipes, il y a beaucoup d'incertitudes et ça va être très très difficile à mon avis.
C'est un peu comme ça pour l'Afrique du Sud, hein. Ils ont présenté leur dossier technique et ils avaient énormément de problèmes et de chantiers en cours et ils l'ont effectivement organisé d'une manière exceptionnelle.
Un petit tour vers l'Angleterre. Les Blues, déjà sous pression, un vrai défi pour les champions sortants, conserver leur titre de vainqueur de la Premier League. Alors ce serait une prouesse parce que depuis 2009, où Manchester United avait gagné pour la deuxième fois ce titre, eh bien les champions d'Angleterre ont l'habitude de changer. Hein. Ces derniers temps, on a eu Chelsea, Manchester City, Manchester United. Bref, on se relaye en haut de la Premier League. Et voilà pourquoi vous allez l'entendre. L'entraîneur italien des Blues, Antonio Conte, reste très prudent.
C'est difficile de dire maintenant si cette saison sera plus compliquée que la précédente. Bien sûr, nous avons gagné le titre la saison dernière, mais cela a été très difficile pour moi parce que c'était ma première fois dans un nouveau pays avec une nouvelle langue, de nouvelles habitudes, un nouveau football. Ça a été très difficile, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. On a gagné et la saison dernière a été une saison à part. Aujourd'hui, les attentes sont élevées, on le sait, et on sait aussi qu'il faut travailler très dur pour essayer de se battre dans chaque compétition.
Marc, selon vous, qui est le mieux armé des équipes? Alors, on parlait de Big Four pendant très longtemps, là, ouais. On commence à parler de Big Six. Qui est, selon vous, le mieux armé pour conquérir ce titre cette année? Allez, vous avez droit à 2-3 noms quand même.
Hein. Non, mais moi, j'ai adoré le jeu de Chelsea cette saison. Faut bien se dire qu'il est arrivé la saison passée. Il a rapidement fait...
C'est ce qu'il dit, hein, que ça n'a pas été simple.
Ouais,
hein.
Non, mais ça a été difficile. Sur la première saison, il a été très impressionnant, puisque petit début de saison un petit peu raté. Il y a cette gifle face à Arsenal en début de saison. Après, il change son dispositif de jeu et on s'est rendu compte que son équipe, il sait très bien la faire jouer, quoi. Et ce 3-4-3 a marché à merveille. Il a relancé Hazard. Diego Costa, bon, on ne sait pas malheureusement ce qui va se passer.
Il en veut plus apparemment.
Voilà, mais c'était quand même un grand buteur. Donc, à partir de là, je pense que Chelsea peut aller chercher un deuxième sacre, parce qu'il me semble très intéressant. Mais non, City, c'est sûr, sera présent. Tottenham, est-ce que c'est un Tottenham? Est-ce qu'Arsenal, ouais, sans Ligue des Champions cette saison, peut-être ça va aller mieux? Mais pour moi, Chelsea reste...
Chelsea.
Ouais, pour moi.
Alors moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout à Chelsea, contrairement à Marc Lura.
Parce que la loi dit que depuis 2009 qu'on garde pas son titre.
Parce que pour avoir suivi de près toute cette saison de Premier League pour Canal Plus Afrique la saison dernière, je peux vous dire que Chelsea a joué, je crois, 48 matchs, toutes compétitions confondues. Ils avaient la Premier League, ils se sont fait éliminer très tôt de la Coupe de la Ligue anglaise et ils sont allés en finale de la Cup, mais ils n'avaient pas de Coupe d'Europe. Il a fait jouer tout le temps les mêmes joueurs. Il n'avait que 13 joueurs à plus de 1000 minutes. Sinon, tous les autres, ils se sont retrouvés mis de côté et donc il y en a pas un certain nombre d'ailleurs qui ont quitté le club. John Terry, Matic, Ivanovic,
il a prêté Zuma. Ces joueurs ne jouaient pas la saison passée déjà.
Non, parce qu'il ne faisait pas jouer.
Ne jouaient pas et qui étaient déjà dans la charrette.
Laisse-moi finir. Pourquoi est-ce qu'il ne faisait pas jouer?
Je l'ai suivi aussi.
Mais parce qu'il a tout, Marc, parce qu'il a toujours fait jouer les mêmes. Oui. Or, cette saison, il va devoir jouer la Ligue des Champions. T'imagines bien qu'Abramovic, il se contente pas de la Première Ligue. Il veut que son équipe brille en Ligue des Champions. Chelsea est champion d'Angleterre. Ils doivent briller en Ligue des Champions. Et je suis très curieux de savoir comment Conte va gérer. Je le vois pas gérer, ces deux rendez-vous.
Il a fait à l'époque avec la Juve.
C'était
aussi.
Après lui, la Juve. Il était déjà plus quand ils ont réussi.
Mais il a fait la Juve, non?
Oui, mais avant.
Rémi.
Ah, d'accord.
Avant.
C'est dommage que je sois d'accord avec Xavier Barré. Je crois que j'irai.
Non, c'est pas dommage, Rémi. C'est bien, ça arrive de temps en temps.
C'est pas possible. Il faudrait que j'aille me confesser tout de suite à l'église dès que je sors de trahison. Donc, je devrais quand même dire qu'au regard des effectifs, c'est pas possible que Chelsea puisse continuer comme ça. Et d'ailleurs, j'ai vu leur début, j'ai vu comment est-ce qu'ils ont quand même été beaucoup menacés par Arsenal, et ça m'a un peu inquiété. Certes, le match était engagé des deux côtés, on ne peut pas dire qu'ils se sont véritablement... Mais ils n'ont pas eu à mettre la patte. Et deuxième des choses, comme on parle des effectifs, effectivement, vous ne pouvez pas dire que cet effectif de Chelsea peut véritablement rivaliser. Or, on regarde de l'autre côté que Mourinho avec Manchester United, de même que Manchester City avec Guardiola, se sont considérablement renforcé. Donc moi, je me pose une question, comment est-ce que cette équipe pourra à la fois aller chercher la Ligue des Champions, aller chercher ceci, aller chercher cela, avec ce petit effectif-là. Donc, de toute façon...
On sait quand même qu'en Angleterre, c'est quand même plus important la Première Ligue que la Ligue des Champions. On le sait aussi.
Mais on les attend sur le terrain européen.
Est-ce que tu as vu, Marc Libra, la fin du championnat? C'est-à-dire que Chelsea avait déjà une avance de près de 13 points. Mais à la fin, ça se fongeait comme neige au soleil.
Comme à l'époque comme ça s'était passé avec
Mourinho.
Mourinho, exactement. Pour terminer, Alejandro?
Moi, je pense que Pep Guardiola a fait le nécessaire pour renforcer
230 millions de dépenser
considérablement l'effectif de Manchester City afin d'affronter justement les deux défis qui s'offrent à lui, c'est-à-dire la Première Ligue, mais aussi la Ligue des Champions. Et je pense qu'après une saison décevante avec les joueurs qu'il a choisis, Guardiola pourra amener Manchester City au top.
Philippe, vous avez une préférence, vous, pour le titre anglais?
Moi, j'ai toujours aimé West Ham United. Ça fait 40 ans, je les aime beaucoup. Et je continue à les aimer, mais ils ne seront absolument pas champions, évidemment. Moi, je mettrais une pièce sur Manchester City.
Moi, j'aime Afia Conakry depuis.
Allez, direction maintenant les cartons.
Carton jaune.
Dieu un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Rémi, avec votre beau pull rouge, quelle est la couleur de votre carton aujourd'hui?
J'ai mon porte-clés et mon porte-clés a une couleur. Carton vert.
Non, c'est pas possible.
Carton vert pour Rémi. Et vous, Xavier?
Moi, j'ai le cœur jaune, mais j'ai le carton vert aussi aujourd'hui.
Le supporter des Canaries. Marc?
Vert aussi aujourd'hui.
Alejandro?
Plus vert que jamais.
Plus vert que jamais. Alors Alejandro, Valente, on dédie ce carton vert tous dans Radio Foot, là, ici, et au-delà d'ailleurs, à Philippe Zygraff.
C'est la moindre des choses quand même. Hein.
J'ai eu peur du carton jaune, mais ça va.
Non. Il va partir bien habillé en vert. Hein.
Non, je suis pas supporter de Saint-Etienne, mais ça fait plaisir.
Non, parce que vous avez plutôt du sang grenat dans les veines.
Ah, c'est FC Metz, oui. Un West Ham, c'est un peu grenat aussi. Hein.
C'est pour ça. Ouais,
mais c'est le FC Metz de toujours, oui, évidemment.
Alors, Philippe Zygraff, 34 ans à RFI, 34 ans sur les antennes de RFI. Vous avez un souvenir comme ça que vous aimeriez partager avec les auditeurs juste maintenant, aujourd'hui?
Non, un souvenir, vous me prenez un peu de cours, parce que moi, j'aime bien le travail par équipe, donc je pensais pas qu'il y aurait quelque chose d'individuel aujourd'hui. Je vous l'avais demandé.
Justement,
un souvenir. Vous savez, les cannes, on en a fait quelques-unes ici à RFI avec les camarades. Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, non, il n'y a pas vraiment de souvenir. C'est un souvenir global, c'est surtout ma découverte du football africain quand je suis arrivé, grâce à notre maître à tous à l'époque, Gérard Dreyfus, que certains ont connu ici, qui était longtemps chef du service des sports de RFI, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier pour l'Afrique. Et donc c'est le sport africain et le football africain en particulier qui a été vraiment un des grands amours, de mes grands amours professionnels, et qui va encore peut-être durer. Mais voilà, j'ai pas de souvenir. Oui, évidemment, en cherchant bien, on a peut-être des très bons souvenirs de reportages, de camarades, de choses comme ça, mais c'est un souvenir global que je vais garder.
En tout cas, sur notre page Facebook, pleuvent des réactions, Philippe Zygraff, mais on vous les imprimera après, parce qu'elles sont vraiment très sympathiques. Certains disent qu'il va manquer à la CAN ce grand journaliste sportif qui maîtrise mieux que quiconque le foot africain. On a aussi une retraite bien méritée pour notre héros des informations sportives, l'encyclopédie du foot africain qui va partir. Profite et reviens saluer de temps en temps dans Radio Foot quand même. Non, on vous demande.
Je suis loin d'être le seul connaisseur du football africain.
Oui, bien sûr. En France. Il y a même Souleymane Ba qui dit j'ai les larmes aux yeux car sa voix unique, ses analyses footballistiques est incroyable. Eh bien, je l'aime, je l'adore. Tu me manques déjà, héros du football africain. Donc, vous voyez, beaucoup d'éloges. Alors, souvenons-nous quand même, on l'a fait ensemble. C'était la dernière CAN au Gabon.
Oui.
Et vous étiez une fois de plus aux commentaires.
Et attention, la contre-attaque côté gauche là-bas avec Karaba, l'entrée de la surface de réparation. Mohamed Salah qui appelle le ballon, Karaba qui se remet sur son pied droit, qui donne ce ballon à Mohamed Salah, petit crochet de Salah qui laisse, oh le but, oh l'ouverture du score pour l'Égypte, signé Abdallah Saïd, extraordinaire Abdallah Saïd, alors que l'on arrive en fin de match du temps réglementaire, sur cette occasion.
But
les Ougandais ont perdu le ballon. Ça a été très vite. Et cette balle
de
Mohamed Salah, il a glissé côté droit à Abdallah Saïd.
Nous allons du côté de Porquerolles pour ce multiplex très particulier. Olivier Pron.
Oui, Annie Gasnier. Je suis en train de driver la candidature de Porquerolles à la Coupe du Monde à 48 avec Rémy N'Golo comme conseiller spécial pour déchirer.
Et Philippe Zegraf comme commentateur particulier.
Ah ben, Philippe Zegraf sera président du comité d'organisation, c'est déjà vu. On a les valises pliées.
Il sert même le commandant.
Et il vous entend, hein, il vous écoute, je confirme. Hein, Philippe.
Bah oui, dès que j'ai entendu Porquerolles, j'ai pensé Olivier Pron, évidemment.
Ah là là, Philippe. Et Philippe, c'était pas possible de pas être là. Hein. Et je vais même faire un truc qu'on déteste, vous et moi. Si ça m'arrive de te tutoyer à l'antenne, c'est pas grave, c'est juste parce que c'est la fin. On est d'accord, on ne se tutoie pas à l'antenne. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que moi, je te connais depuis 1994 à RTL9, du temps où il y avait encore des journalistes là-bas, du côté de la Moselle. J'étais un bébé journaliste et j'ai appris plein de choses déjà dans ces années-là, avant de te quitter et de te retrouver du côté de RFI. J'ai beaucoup appris à RTL avec toi, notamment à prononcer correctement Eric Rabesandratana.
Oui, je me souviens.
Rabesandratana.
Je te tapais sur les doigts, effectivement.
Ah, mais oui.
Parce que tu le prononçais mal.
Et puis après, depuis 16 ans RFI, comme beaucoup et comme tous, comme nos auditeurs l'ont compris, on a tous énormément appris. Évidemment, on a appris la rigueur et on a appris l'Afrique. Et je crois que j'aurais pas encore passé des 15 ans qu'il me reste au minimum hein, à travailler, on ne sait pas ce que le sort nous réserve, pour arriver au niveau de ta connaissance pour l'Afrique.
But à Londres.
Et on part au stade olympique de Londres. Christophe Jousset, bonjour, il y a un but.
Oui, bonjour. Oui, en compagnie de Christophe Diremzian, de David Kalfa, but à Londres, effectivement, oui. On s'en fout complètement de la retraite de Usain Bolt ici, c'est demain, mais tout le monde ne parle que de la retraite de Philippe Zegraf. Voilà, ça se termine, c'est incroyable, on croyait pas que ce 11 août arriverait, mais voilà, c'est maintenant. Tout le monde est évidemment très très triste et content pour lui, évidemment, depuis toutes ces années, Philippe. On en a fait quelques campagnes africaines, ouais. Mais ouais. C'est vrai que pour renoncer à toutes ces heures de sommeil, toutes ces nuits passées à courir après les clients pour ton micro, à courir après les bonnes idées pour les papiers, franchement, il n'y a que la passion qui peut expliquer ça. Et depuis la finale des Jeux Olympiques qu'on avait commenté ensemble à Sydney avec le Cameroun en l'an 2000, franchement, c'est ta passion qui m'a toujours impressionné. Ça va être dur d'assurer la relève.
Hein. Alors, en ce qui me concerne, le compteur de Cannes est pour l'instant désespérément bloqué à zéro. Mais c'est pas grave, ça arrivera un jour. Malheureusement, ce sera pas avec toi, Philippe. J'en suis malheureusement désolé, mais par contre, je suis absolument pas désolé d'avoir vécu 13 ans de service des sports en ta compagnie parce que c'était vraiment formidable. Tu m'as vraiment marqué par, évidemment, ton professionnalisme, par ta rigueur et ta conscience professionnelle. Alors, comme c'est en plus la journée des cartons en Radio Foot, je vais te donner un carton, mais c'est un carton qui n'existe pas. C'est le carton en or, parce que t'es vraiment tout simplement un mec en or.
C'est trop gentil, merci.
Bravo,
Christophe.
Annie, avec David Kalfa en plus,
David,
une information qui vient de tomber sur le réseau social Twitter. Didier Drogba et Samuel Eto'o écrivent: j'arrête, si tonton arrête, j'arrête aussi. Je pense qu'on va tous arrêter parce que voilà, on peut pas continuer sans
but
Philippe.
En tout cas, but à Méribel dans les Alpes.
Dans les Alpes, eh bien on retrouve Antoine Grenier qui est notre envoyé spécial sur le stade de Méribel. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour Philippe, évidemment.
Bonjour.
Évidemment, je pouvais pas louper l'occasion. Eh ben, moi aussi d'adresser un salut amical à celui. Voilà, l'Afrique pour moi, ça a été quelque chose qu'on inoculait. Il faut quelqu'un qui vous inocule l'Afrique. Et pour moi, ça a été grave quand je suis arrivé en 2011 au service des sports. Il m'a pas forcément pris sous mon aile, mais j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui pouvait m'apporter, qui pouvait me montrer comment ça fonctionnait. Et ça a été Philippe. Ça a été vraiment un honneur pour, dans ma petite carrière, de pouvoir fréquenter quelqu'un comme ça pour commencer. Et voilà, un gros bisou. Voilà, je l'embrasse, Philippe, comme je l'aurais embrassé si j'avais été là.
Merci Antoine. Et en plus, c'est avec Antoine et Joseph-Antoine Bell que j'ai commenté mon dernier match. C'était à la CAN au Gabon, justement. Donc voilà, c'est un peu un passage de relais avec Antoine qui va prendre ma suite, enfin qui va voilà, être engagé bientôt.
Et oui, la nouvelle recrue des services des sports.
Voilà, et qui est quelqu'un qui est passionné aussi par l'Afrique.
Et oui, qui a appris aussi ce que c'était le football africain et donc qui a réussi eh bien à s'intégrer lui aussi dans cette passion footballistique du foot africain. Philippe Zigraf, attendez, il reste encore 3 minutes là, 3 minutes et peut-être encore quelques encouragements ou un peu de musique aussi du côté de l'Afrique hein, finalement Guillaume Munier.
Maman, je pense à toi, je t'écris des 3 étoiles à Cachan. Tu vois, faut pas que tu trembles ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain.
Alors, un Africain à Paris, hein, c'est une adaptation de Tiken Jaffa Coli, oui. Juste pour vous, Philippe Zigraf. Et puis, il y a tout le monde. Hein, le plus grand représentant des dirigeants d'RFI, Bruno Darou, est là pour vous dire peut-être au revoir.
Oui, au revoir.
Vous, le passionné sport.
Moi, dont tout le monde ici en interne connaît ma passion imminente pour le football. Voilà, j'ai dit au revoir tout à l'heure à Philippe en conférence de rédaction parce que c'était aussi sa conférence de rédaction. Et c'est ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'était aussi le chef adjoint du service des sports et en conférence de rédaction. Mais c'était toujours très classe, très drôle, petite distance, sobriété, chapeau.
Et ben voilà, Philippe Zigraf, on vous dit tous au revoir et on vous applaudit tous.
Merci.
Et à lundi pour Radio Foot International, au rendez-vous.